Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le M23 AFC annonce le repositionnement de ses forces de Walikale et environ, conformément au cessez-le-feu du 22 février dernier, mais le gouvernement congolais dit attendre voir la concrétisation de cette décision et pour la société civile de Walikale, ce repositionnement frise la distraction. Ituri, plus de 10 sites miniers tenus par des militaires et policiers congolais à Mambasa, au détriment des populations victimes des atrocités des groupes armés dans ce territoire, l'alerte est des acteurs de la société civile à l'issue d'une visite d'inspection de certains sites miniers dans la zone. Et puis, l'invité de ce matin, Amisi Mujanaeri, directeur de siège Kindu de l'entreprise DRC Gold Trading SA. Cette entreprise du portefeuille de l'État congolais s'est installée cette semaine à Kindu. C'est l'une des retombées de la première conférence tenue l'année dernière à Kindu sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Madame, Messieurs, bonjour. Avant de développer ces titres, sachez que les consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale vont démarrer demain lundi 24 mars. Cela à l'attention de 4 catégories d'acteurs sociopolitiques de la RDC, à savoir la majorité parlementaire, les partis et regroupements politiques, la société civile ainsi que quelques personnalités du pays. Annonce faite hier samedi par le directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'était au cours d'un point de presse tenu à cet effet à Kinshasa. Répondant à une question, Espoir Massamanki précise que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'exclut pas de recevoir les délégués de l'AFC-M23, mais ceux-ci doivent adhérer à un certain nombre de préalables. On écoute Espoir Massamanki au micro d'Alain Rongmouchinge.
C'est la raison pour laquelle dans le mot du conseiller spécial, il a voulu commencer par énumérer les principes qui fondent les consultations. Et parmi ces principes, il y a l'intangibilité des frontières, il y a l'unité nationale. Ça veut dire que si ces personnes acceptent d'adhérer à ces principes, c'est à cette condition qu'ils participent aux consultations politiques. Parce qu'on ne peut pas violer ces principes et vouloir participer aux consultations politiques. Donc c'est un préalable et ce sont les principes qui fondent les consultations politiques. Donc le respect de la Constitution, comme on l'a dit, l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité territoriale, ils doivent donc respecter ces différents principes qui fondent les consultations politiques.
Et concernant la durée, le directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité souligne que ces consultations ne dépasseront pas 2 semaines. Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, le gouvernement congolais dit attendre voir des actes concrets de la part du M23. C'est la réponse de la ministre d'État aux Affaires étrangères à la décision de l'AFC-M23 de repositionner ses forces de la ville de Walikale et ses environs conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025. La rébellion l'a annoncé hier samedi à travers un communiqué. Thérèse Kaikwamba Wagner répondait ainsi à une question au cours d'un café de presse qu'elle a organisée ce même samedi à Kinshasa. La ministre des Affaires étrangères est au micro d'Alain Rongmouchinge.
Je pense que, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considération prioritaire. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes. En tout cas, c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment, surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles, et qu'il va aussi maintenant répondre à ses promesses, si vous voulez, avec des actes concrets, surtout des actes qui vont épargner les vies civiles.
Par ailleurs, la ministre Thérèse Kayikwamba précise que la rencontre de Doha entre les présidents congolais et rwandais doit être considérée comme complémentaire aux autres processus de paix en cours et non singularisée. En réaction à ce repositionnement du M23, la société civile de Walikale et au Nord Kivu dit ne pas avoir foi en cette décision des rebelles pour cette structure citoyenne. Ce repositionnement frise la distraction pour endormir le gouvernement et les forces armées. Elle parle d'une stratégie des rebelles pour se renforcer afin de conquérir d'autres entités. Elle demande donc à l'armée et à la population d'être vigilante. On écoute Fiston Missona.
C'est une façon de tromper la vigilance nationale et internationale, et aussi à la communauté internationale. Et alors que ces éléments seraient sur terrain, et voire même à ce moment où nous vous parlons, ils sont en train de déborder pour contourner les positions des FARDC et les surprendre au-delà du chef-lieu du territoire en allant vers l'axe Kisangani. C'est pour cela que nous sommes habitués à leur fratrie. Et ça fait longtemps qu'ils ont toujours eu cette habitude-là pour tromper le silence de la population. Voilà donc pourquoi nous interpellons le gouvernement congolais au travers les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et Wazalendo, de les poursuivre jusqu'au bout, afin d'arrêter cette hémorragie, de les faire quitter par la force en territoire de Walikale.
Notez que plusieurs sources à Walikale confirment l'atterrissage des deux aéronefs vendredi et samedi sur la piste de l'aérodrome de Kigoma de Walikale. Ces appareils transporteraient des présumés hommes armés, selon ces sources. Pendant ce temps, au Sud Kivu, le fonctionnement des écoles est déplorable actuellement. C'est le constat fait par le président provincial de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants de la RDC, Anapeko Sud Kivu. Augustin Batandi appelle le gouvernement central à rétablir la paix pour sauver l'avenir des enfants. On écoute le président de l'Anapeko Sud Kivu dans ses propos recueillis par Kéline Kouté.
Le fonctionnement des écoles aujourd'hui dans notre province, c'est un peu déplorable. Nous pouvons dire que quelques écoles continuent à fonctionner là où l'AFCM 23 ont déjà récupéré. Et dans les zones où il y a encore des combats dans des territoires et même dans le périphérie de Bukavu, certaines écoles ne fonctionnent pas. Et puis aussi, il y a les écoles qui ont été détruites pendant la guerre vers Calais, Minova et partout ailleurs. Et donc vous comprenez que la situation humanitaire dans les écoles est déplorable. Ici chez nous à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, rien ne va vraiment, bien que certaines écoles continuent à étudier, mais comment les parents vont payer? Ainsi, nous lançons l'alerte au niveau du gouvernement de voir comment intervenir, sinon l'éducation de nos enfants est vraiment en danger et cela c'est un grand problème pour l'avenir de la jeunesse.
Direction l'Ituri, des dizaines de sites miniers tenus par des expatriés chinois sont gardés par des militaires et policiers congolais au détriment des victimes des atrocités des groupes armés dans le territoire de Mambasa, déplorent des acteurs de la société civile. Ils l'ont fait savoir à l'issue d'une visite d'inspection de certains sites miniers dans la zone. Pour ces activistes, la présence des militaires dans ces sites en cette période où le pays fait face à l'agression des rebelles dont les EDF fait désordre. Ézéchiel Mouzali a nous en parle.
Il s'agit par exemple des sites MRM 1, 2 et 3, Talissa, Talawe, ainsi que d'autres étendues exploitées par Kimia Mining dans les chefferies des Bombo et Bandaka dans le territoire de Mambasa. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la zone, les militaires sont postés à plusieurs barrières où ils assurent la protection des sites. Jospin Mboa.
Ils sont attachés sur des barrières. Sur chaque barrière, il y a 4 militaires. Donc les militaires doivent quitter les sites miniers des Chinois et venir traquer les ADF. Vous n'entendrez jamais mec, il y a un site minier des Chinois qui a été attaqué. Mais chaque jour, vous apprenez qu'il y a des morts dans les champs des agriculteurs.
De son côté, l'administrateur du territoire de Mambasa indique que la présence de ses forces de l'ordre est d'empêcher les groupes armés, dont les Mai Mai, de reprendre le contrôle de ces endroits où il y a des gisements de minerais.
L'armée était en train de pourchasser les groupes armés. L'armée quittait, c'est pour laisser encore la place à ces groupes armés de revenir s'installer. C'est ainsi qu'ils ont pris position dans ces endroits-là avant que ça ne soit des sites miniers.
Plusieurs agglomérations de la chefferie de Babila Babombi sont régulièrement la cible des ADEF ainsi que des voleurs de cacao. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'entreprise Générale Malta Forest qui met fin à ses activités dans la province du Tanganyika et renvoie au chômage près de 300 agents. À la base de cette décision, d'après plusieurs sources, Malta Forest subirait une pression financière injustifiée de la part de Saimape, un service qui encadre les exploitants artisanaux et les coopératives. Cette question a été au centre d'un échange jeudi à Kalemi entre le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika et la délégation syndicale de Malta Forest. Détails dans ce reportage de Paulin Munanga.
Selon des sources proches de l'entreprise, tout commence en 2022. Saimap adresse une correspondance à Malta Forest pour qu'elle s'acquitte des taxes d'exploitation et dont le montant est estimé à 1 800 000 dollars américains. Face au refus de Malta Forest de payer ces montants, Saimap se décide de porter plainte au parquet près la cour d'appel de Kalemi, rapporte les mêmes sources. En décembre 2024, sur demande de Saimap, le parquet scelle toutes les carrières de moellons et de graviers de Malta Forest. En réaction, les responsables de cette entreprise font savoir que Malta Forest, qui est à l'échelle industrielle, n'a aucun compte à rendre à Saimap qui encadre les exploitants artisanaux et les coopératives. En février dernier, l'entreprise décide de renvoyer au chômage près de 300 de ses agents. Et depuis quelques jours, Malta Forest commence à démobiliser ses matériels vers Lubumbashi et Kolwezi. Contacté par Radio Okapi, le directeur provincial de Saimap dans le Tanganyika n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Côté gouvernement du Tanganyika, le porte-parole fait savoir que le dossier est au niveau du ministre provincial de Mines.
Nous sommes à présent au Kasaï oriental pour signaler le lancement vendredi dans quelques écoles de la commune de Dioulou en Mbujimayi de la sensibilisation sur la culture générale. L'autorité municipale a commencé cette action au complexe scolaire Eureka 5, non loin de la mairie de Mbujimayi. Ben Kabangu a mis un accent particulier sur la connaissance des dirigeants du pays, des institutions nationales, provinciales, urbaines, jusqu'au chef des quartiers. Esther Ndalafina pour le reportage.
Ben Kabangu, bourgmestre de la commune de Dioulou, a commencé cette sensibilisation par l'évaluation des connaissances des élèves.
Il connaît les noms du président de la République.
Selon le bourgmestre, le but de cette activité est de faire connaître aux élèves les noms de leurs dirigeants.
Nous avons trouvé que, à part les noms du président de la République, que tout le monde a maîtrisé, mais les noms du gouverneur de la province, les noms du maire de la ville, du bourgmestre, de leur chef de quartier, donc beaucoup d'élèves n'étaient pas à la hauteur.
Quelques élèves apprécie cette action.
Je m'appelle Aldi Boutoumbi Changan. Quand je rentre à la maison, on me posera qu'est-ce que vous avez étudié à l'école. J'ai retenu que le président de la RDC s'appelle Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Marcel Mwamba, directeur de Eureka 5, salue cette initiative et compte le pérenniser.
Quand les enseignants enseignent en classe, ils les font par moyen de la photo. Alors aujourd'hui, c'était une grande chance devant les enfants pour voir les bourgmestres, les chefs de quartier. Ils ne pouvons pas nous arrêter par ce que le bourgmestre a fait. Les enseignants vont continuer à donner les mêmes informations au cas où ces mêmes autorités continuent à exercer.
Signalons que le bourgmestre a aussi sensibilisé les élèves du complexe scolaire Mukajiwa Chitembo. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir dans la ville de Matadi au Congo central. Ici, la population habitant la cellule Angwango au quartier Soyo n'a plus accès à l'eau potable depuis le mois de novembre 2024. Pour le comité de suivi et développement de cette entité, le manque d'eau est causé par la malveillance des agents de la régie des eaux. Dans un mémorandum adressé au directeur provincial de la régie des distributions d'eau, le comité de suivi et développement de Angwango déplore cette situation et appelle la régie des eaux à trouver urgemment une solution. Nana Pleurich Mambou nous fait le point.
Dans leur mémorandum, les comités de suivi et développement de la cellule Angwango, dessertes par la ligne située au niveau de Tsasadi-Toumba, dit regretter du calvaire que vit la population de ces coins suite au manque prolongé d'approvisionnement en eau depuis la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024 jusqu'à ces jours. Dans ces documents, cette structure dit avoir constaté que les agents qui gèrent la vanne, située vers la résidence de l'ex-directeur de la régie des eaux, Fepelo Kossi, ont fait des combines avec les habitants de de la partie supérieure qui bénéficient de l'approvisionnement en eau au détriment de la population de cette cellule, alors qu'ils sont tous les abonnés de la régie des eaux. Face à cette situation, la cellule de suivi et développement d'Ango Ango au quartier Soyo recommande à la régie des eaux d'instruire ses services habilités à réglementer les problèmes du délestage d'eau entre les différents quartiers, de les faire dans l'équité et d'éviter les favoritismes ou la corruption. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le 21 mars 2025 marque un tournant historique pour la Namibie. Netumbo Nandi Ndaitwa est devenue la première femme présidente du pays en prêtant serment à Windhoek. Une investiture solennelle s'est tenue en présence de plusieurs chefs d'État africains. Surnommée NNN, cette figure de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, a remporté les élections de novembre 2024 avec 58% des voix, un scrutin marqué par des contestations, notamment de l'opposition des patriotes indépendants pour le changement. Malgré cela, la fidélité à la SWAPO reste forte. Âgée de 72 ans, ancienne vice-présidente, elle succède à Nango Lumbumba, président intérimaire après le décès de Agé Gengob.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Amisi Mujanaeri, directeur de siège Kindu de l'entreprise DRC Gold Twining SA du portefeuille de l'État congolais. Cette entreprise s'est installée cette semaine à Kindu dans l'obligation de procéder à l'achat, à la commercialisation et à l'exportation de l'or. C'est l'une des retombées de la première conférence tenue l'année dernière à Kindu sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Amisi Mujanaeri est avec Florence Kizalunga.
Monsieur Amisi Mujanaeri, bonjour.
Bonjour madame.
Quel est le rôle de DRC Gold dans la province de Maniema aujourd'hui installée?
L'entreprise du portefeuille de l'État dénommée DRC Gold Trading SA vient de s'installer au Maniema et a aujourd'hui lancé ses activités dans cette province à partir de la ville de Kindu. Les activités de cette société se résument en trois actions. La première action, c'est acheter. La deuxième, c'est commercialiser. Et la troisième, c'est exporter. Quoi? L'or. Quel or? Or, ici, de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Et cette production-là doit être canalisée dans le circuit officiel que nous sommes.
DRC Gold s'attend à quoi?
Elle s'attend à ce que tous les Congolais évoluant dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or lui apporte leur production.
Et quel sera l'apport de DRC Gold Trading dans la province du Maniema?
L'apport, il est franchement économique. Économique dans ce sens que nous achetons cash. Nous achetons via la voie bancaire. C'est-à-dire les fournisseurs, les négociants, la coopérative, l'acheteur ouvre un compte à la banque et nous, à chaque fois qu'il nous fournit de l'or, nous lui donnons de l'argent via son compte à la banque. Qu'à cela ne tienne. C'est que en canalisant l'or dans les circuits officiels, ça permet à la province d'avoir les moyens de sa politique par rapport au secteur de l'or dans sa province. C'est-à-dire, nous payons, la DRC Gold paye à la fin, pour chaque exportation, paye une taxe unique de la valeur de l'or exporté. Et elle paye cet argent-là à la province et aux services intervenants. C'est déjà un plus-value au niveau des apports financiers de la province. Nous avons le travail à faire avec, par exemple, les services de l'administration des mines. Ces services-là participent à cette action et ils sont rémunérés à travers les exportations que nous payons. Voilà.
Maniema, une province malgré ses potentialités estimées à une tonne d'or artisanale par an, mais il est regrettable que nous avons suivi les statistiques. Le Maniema n'a rien produit entre 2020 et 2023. Quelle serait alors la contribution des DRC Gold pour lutter contre cette fraude minière, mais aussi la contrebande?
Nous venons de commencer aujourd'hui. Nous arrivons aujourd'hui au Maniema. Et c'est peut-être demain ou après-demain, nous commençons les achats. Ce qui s'est passé en terrain, moi, c'était quoi? C'était la fraude. Toute la production que le Maniema opérait allait être vendue dans d'autres provinces. Et ce sont les autres provinces qui bénéficiaient de ça. Les chefs de l'État, en créant DRC Gold, jadis c'était Primera Gold, c'était pour combattre la fraude. Pour donner la possibilité aux Congolais de chaque province qui produit l'or, de les ramener dans les circuits officiels, afin qu'on arrête la fraude, afin que la contrebande s'arrête. Je fonde l'espoir de voir la fraude et la contrebande s'arrêter dans les Maniema et que tout le monde dans les Maniema puisse canaliser son or à DRC Gold Trading pour que cela puisse être profitable à tous.
comme la province d'Imanimo n'est pas le débit dédié à Arcigold, ici les chiffres d'exploitation, vous vous attendez à atteindre combien?
Nous sommes en train de commencer aujourd'hui. On va vérifier ce que nous avons récolté comme chiffre dans la prospection que nous avons effectuée. Par mois, si au Maniema nous n'arrivons pas à exporter 200 kilos, c'est que nous sommes en train d'échouer. Nous devons exporter au moins 200 kilos par mois. Au moins.
Alors comment allez-vous faire pour sensibiliser tout ce monde-là qui a amené de l'or par fraude en lui disant que maintenant le comptoir est ici à Kindu et vous allez seulement vous limiter à Kindu, vous n'irez pas dans les territoires?
Le travail de sensibilisation pour un civisme responsable, pour le patriotisme, incombe non seulement à DRC Gold, c'est à vous de la presse, c'est aux autorités locales. Faire comprendre à tous nos compatriotes que le temps de la fraude et de la contrebande est révolu. Maintenant, c'est le temps de canaliser toutes nos productions dans les circuits officiels. Nous allons étudier, dans la mesure du possible, comment nous allons nous étendre dans les points chauds de la province, notamment à Salamabila, à Kalima, à Bikenge, à Kampene, à Lubutu, à Pugna, à Kailo, à Kasese. Dans tous ces coins-là, nous devons avoir des représentations pour permettre aux concitoyens qui habitent ces coins-là ne puissent plus effectuer de longs trajets pour aller vendre leur quantité d'or. Mais dans un premier temps, on leur demande de venir à Kindu et nous allons faire ces transactions-là.
Monsieur Amissi Moudjanaeri, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, madame. Merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.